Urban Style. Mesdames et messieurs, culture générale.
Bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas d'épisode à vous proposer. C'est vrai qu'on n'a plus rien en stock, vous savez ce que c'est, la production en flux tendu, etc., etc. Mais, pour vous faire patienter, on a décidé de vous faire assister à notre nouvelle passion, le Trivial Poursuite. Parce que comme vous le savez, Culture 2000, c'est comme le Trivial Poursuite, sauf qu'à la fin, tu gagnes le camembert. Allez, le plus petit commence. Oui.
Ça part mal pour toi. Allez.
Jaune. Histoire. Qui commanda les troupes alliées en France pendant la Première Guerre mondiale?
Bah, c'est un maréchal, déjà.
Ouais.
Nouveau
ouais,
là, même.
Ouais.
Je veux dire le maréchal Foch.
C'est ça?
Ouais.
C'est ta réponse?
Ouais.
C'est ça.
Ah, yes. Allez, le prochain, c'est un camembert. Deux. Camembert, mon gars. Bim, d'entrée de jeu. Mais la pression.
Ouais, d'accord. Sous quel nom la National Aeronautics and Space Administration est-elle plus connue?
Bah, la NASA.
C'est pas évident. Hein.
Eh bah, c'est camembert, mon gars. D'entrée de jeu.
Marron. Camembert marron.
Allez, camembert. Quel auteur dramatique américain s'est inspiré de la vie dans le sud des États-Unis?
Il y a moyen que ça soit Tennessee Williams, je sais qu'il a vécu en Floride, donc c'était au sud. Donc voilà, je dis Tennessee Williams.
Et bah, c'est une excellente réponse.
Yeah. Tu veux plus de détails?
Ouais, bah ouais, vas-y.
Bah, Tennessee, il a écrit des romans, il a écrit de la poésie, il a surtout écrit des pièces de théâtre. Il est surtout connu pour la ménagerie de verre, et puis surtout, le truc qu'on connaît tous, un tramway nommé Désir qui était adapté au cinéma. Toutes ses œuvres étaient souvent adaptées au cinéma d'ailleurs. Et il y a Marlon Brando qui joue dedans.
Ouais.
Ouais.
Avec son petit t-shirt blanc moulant là.
Avec son petit t-shirt.
Ouais, c'est bien sexy.
Et Tennessee, il a été élevé dans le sud des États-Unis. Il a pas eu une enfance très facile. D'ailleurs, lui, il a fini un peu alcoolique, drogué à la fin de sa vie. Mais chez Tennessee, on retrouve souvent des marginaux dans ses personnages et il se pose plein de questions sur l'époque parce que c'est milieu du 20e. Donc il y a plein de questions sur la sexualité, sur Dieu, etc., etc. Et il y a un truc que tu dois connaître sûrement aussi.
Ouais, je pense que tu vas me parler de la chanson de Johnny, non?
Ouais. On a tous quelque chose de Tennessee. Bah ça, tu vois, c'est une chanson de Johnny, mais elle a été écrite par Berger. En 85. Et pourquoi est-ce que Berger écrit sur Tennessee? En fait, parce qu'il sait que Johnny adore Tennessee Williams. Ça l'a marqué dans son...
Genre Johnny a vraiment déjà vu ou lu Tennessee Williams.
Oui, ouais. Il adore. Et du coup, comme il est professionnel, Berger dit, bah écoute, voilà, je vais faire une chanson qui va plaire à Johnny, je vais faire un truc sur Tennessee. Et donc il lui fait, on a tous quelque chose en nous de Tennessee, voilà. Alors, j'ai encore une anecdote qui est très drôle sur cette chanson, c'est qu'en 88, il y a Chirac qui fait un meeting, et Johnny est là. Et Johnny, bah, c'est prévu qu'il chante, tu vois. Mais juste avant, il dit, bon, je voudrais dédier cette chanson à Jacques Chirac, parce que je voulais vous dire qu'on a tous en nous quelque chose de Jacques Chirac.
Le con.
Et en fait, ça n'a pas vraiment plu à Michel Berger, parce qu'évidemment, bah, lui, il était bah, plutôt
Berger
pour Mitterrand.
Chirac,
ouais, voilà.
Ah, deux.
Non mais attends. Je t'ai dit, tu joues pas sans que je vois, là, je regardais pas.
Mais j'ai fait un,
non, mais...
deux... camembert.
Mais j'ai rien vu.
Bah écoute, si tu regardes pas, si tu fouilles les cartes pendant que je joue. 5. Maroon.
Quelle race de guerrier se coupait le sein droit dans la mythologie grecque?
Le droit, hein, pas le gauche.
Oui, le droit. Ouais. C'était souvent le droit.
Bah, parce que ça aurait été le gauche, t'aurais dit autre chose.
Peut-être pour les gauchères. Hein.
Ouais, mais justement, je pense que c'est plutôt des guerrières, les Amazones. Vas-y, je tente.
C'est ça. Bien sûr que c'est ça.
J'aurais eu l'air con si c'était pas ça.
Explication, Anne.
Je sais pas. J'ai pas. Non, par contre, je sais pas pourquoi.
Eh ben, tu veux qu'on fasse l'appel à un ami?
On appelle Marlène, ça te va?
Allez.
C'est parti.
Allô?
Allô, Marlène?
Ouais, Greg.
Oui, c'est moi en personne.
Salut.
Je suis avec Anne.
Salut, Anne.
Et figure-toi qu'on est en train de faire un Trivial Poursuite et je lui ai posé une question sur les Amazones. C'était quelle race de guerrier se coupait le sein droit dans la mythologie grecque? Il a eu bon, il a dit les Amazones.
Eh, c'est pas trop fort ça?
Mais bravo Johan, mais ouais, je suis hyper fière.
Mais on t'appelle parce qu'on voudrait en savoir un petit peu plus.
Avec grand plaisir. Alors, et bah figure-toi déjà que, en fait, ce qui est génial, c'est que le Trivial Poursuite se trompe. Trompe lui-même. Et
ah
ouais
bon?
Parce qu'en fait, les Amazones, et ben en fait, c'est les Grecs, enfin d'ailleurs c'est les Grecs qui se sont plantés, qui pensaient que Amazon, ça voulait dire sans sein. Et donc, ils pensaient que, du coup, les Amazones étaient des guerrières qui se coupaient le sein droit pour, en fait, pouvoir tirer à l'arc correctement.
Ouais, c'est ce qui me semblait.
C'était des guerrières.
Ouais.
Exactement, sauf que, en fait, non, ça veut plutôt dire, a priori, ceux qui ne mangent pas de pain. Rien à voir.
Ce qui n'a aucun sens.
Parce qu'en fait, les Amazones, c'était des guerrières nomades des steppes d'Asie centrale et donc des peuples qui n'avaient pas d'agriculture et donc qui n'avaient pas de blé et qui ne pouvaient pas manger de pain.
Manger de pain.
Voilà. Mais les Grecs, en fait, ils ont assimilé ça à quelque chose. Enfin, pour eux, c'était vraiment les peuples barbares par excellence, puisque non seulement c'était bah, des barbares, des étrangers qui montaient à cheval, et en plus, c'était des femmes.
Ouais.
Et des femmes qui maniaient les armes et qui montaient à cheval, et qui, selon eux, avaient un genre de... plutôt une sexualité débridée. Enfin, bref, ça donnait lieu à plein de représentations complètement délirantes des Amazones. Et aussi à cette idée que les Amazones donc, se coupaient le fin droit, ce qui a priori était complètement faux.
Et bah écoute, top Marlène, parce que tu vois, moi j'avais la bonne réponse, mais j'avais pas d'explication. Et bah grâce à toi, c'est camembert quoi.
Ouais, bingo.
Alors c'est camembert, mais on a quand même une petite question bonus pour toi, parce que tant qu'on t'a sous la main. Est-ce
okay,
que
okay,
t'es prête
je,
ou pas?
Je presse un peu, mais je vous attends. Je
ouais,
vous...
ouais. On est sur une question, attention, hein, hautement intellectuelle de sciences naturelles. Quel animal? Ouais. Je répète, hein, quel animal s'exprime à raison de 7400 pulsations à la minute?
J'hésite entre un insecte ou, je sais pas moi, non les dauphins ça pulse pas, ça envoie des ondes. Ou alors, je sais pas, un coucou ça pulse dans les arbres.
Le coucou c'est ta réponse?
Ouais, allez le coucou.
Eh ben écoute, c'est dommage, t'étais sur la bonne piste avec les insectes, c'est les cigales, figure-toi.
Mais les cigales, mais comme la route de notre tournée d'été, tu veux dire?
Exactement.
Exactement.
7400 par minute, ça commence à être pas mal en termes de stress, je pense, pour des cigales.
Ouais, je pense que les cigales, elles sont pas au top, en fait.
Bon, bah c'est top, merci Marlène. J'espère
bah,
qu'on
merci à vous.
On se revoit bientôt, et puis merci pour tes explications, mais on continue le trivial en attendant.
Ouais, j'espère que vous allez gagner, hein. Je suis en tout cas avec vous.
Ah, il y en a un qui va gagner, ça c'est sûr. Ouais.
Et ça sera pas Greg, je peux te le dire. Est le Chrysler Building?
À Nueva York. Divertissement.
Rose, qui présentait, donc une émission que tu as dû regarder forcément comme tu as 47 ans, qui présentait l'émission télévisée La Tête et les Jambes?
La Tête et les Jambes, ça pourrait être Guy Lux, ça pourrait être Pierre Belmar. Vas-y, je vais dire Pierre Belmar.
Bravo.
C'est Pierre Belmar?
Et obviously, Pierre Belmar. J'en perds mon...
C'est bon,
Pierre
ça
Belmar, ouais, bravo.
Allez. 3. Marron. Vert, pardon.
Comment ça fatigué. Question verte. Alors, comment appelle-t-on un groupement d'étoiles situé à l'intérieur de la galaxie? J'ai bien dit à l'intérieur.
Moi, franchement, je sais pas, mais là, enfin, je sais pas, une constellation.
C'était un amas stellaire, Greg.
Namas stellaire.
Un amas stellaire. Constellation, on est plutôt sur la grande ours.
T'es sûr de ça?
Ouais, je suis à peu près
sûr.
Je
veux pas qu'on appelle l'astrologue pour vérifier.
On va l'appeler, je veux bien qu'elle nous raconte d'où viennent les galaxies. Ouais.
Ok, allez.
Allô, Léa?
Ciao.
Tu sais qui c'est?
On dirait une boîte grand blond, je suis pas sûre, mais...
Ouais, c'est ouais. Ça. Je suis accompagné d'un autre blond.
Salut, Léa.
Salut Greg, ça va?
Ouais, on était en train de faire une partie de Trivial Poursuite, figure-toi.
Ah bah dis donc, vous emmerdez pas là pendant la fin du confinement?
Ouais, bah du coup on t'appelle pas du tout pour prendre de tes nouvelles, c'est complètement intéressé.
D'accord.
J'avais une question à Greg, et bah Greg a pas su répondre, on s'est dit que toi t'aurais peut-être une petite idée. Est-ce que t'es prête?
Ok, d'accord, okay. Je me consens, vas-y.
Je vais prendre ma plus belle voix de Jean-Pierre Foucault. Alors, comment appelle-t-on un groupement d'étoiles situé à l'intérieur de la galaxie?
Un amas stellaire.
Et ben voilà, quand c'est Léa, c'est tout de suite plus facile.
Ben moi j'ai dit constellation, c'est quoi une constellation Léa du coup?
Bah je dirais que la première chose c'est que, en fait c'est pas tellement une question de science, mais c'est une question qui m'intéresse vachement parce que, en fait elle a affaire à la représentation que les êtres humains ont du ciel et des étoiles.
Ouais.
Et les constellations en fait c'est tout simplement des amas d'étoiles que nous, on voit en tant qu'êtres humains depuis la Terre. Ouais. Donc, des extraterrestres ne verraient pas du tout la même chose à des milliers d'années-lumière. Mmh. Et on a réussi à imaginer des lignes imaginaires dans le ciel entre ces étoiles pour former des images, etc., des personnages.
Et ça date de quelle époque, ça?
Ça, on est déjà bien avant 14 000 avant Jésus-Christ, C'est au moment... parce qu'en fait, c'est hyper drôle, mais les Amérindiens s'est rendu compte qu'ils avaient aussi ce même mythe de la grande casserole, de la grande ours.
Ah ouais.
Et en fait, on pense qu'ils ont emmené cette façon de voir le ciel à travers le détroit de Bering.
Alors, autre question, est-ce que les Amérindiens avaient des casseroles?
Bah, Mimicicu en a. Et d'ailleurs, d'accord. Quand il les offre, ça veut dire qu'il t'aime. Donc, si tu reçois une casserole d'un Amérindien, ne dites pas.
Et bah, franchement, merci Léa, c'est beaucoup plus complet que ce qu'on aurait pu répondre.
Léa.
Avec plaisir.
Léa, maintenant que t'es là, on va quand même te poser une petite question bonus. T'es prête?
Ouais, vas-y.
Quel pays produit les dames?
Ah, c'est du fromage, ça?
Je peux pas te dire.
Ah putain, je dirais, bah, j'ai envie de dire, ça me fait penser camembert, emmental, ça me fait penser à la Suisse.
Non, tu sais, tu connais Dave, parce que Dave aime les dames. Et les dames, c'est la Hollande.
Ah Dieu, mais bien sûr.
Tant pis, t'auras pas des dames pour le dessert, les gars.
Bon, mais... Et qui est-ce qui est en train de gagner, quand même, dites-moi?
Bah, pff,
c'est serré, là. Hein.
On peut pas te dire, parce que Greg, il va faire la gueule, sinon.
Bon allez Greg, bon courage, et puis Johan, toi aussi.
Ouais, merci beaucoup.
Avec toi à la fin, vous nous tenez au courant. Hein.
Merci beaucoup Léa, c'est cool.
Salut, ciao.
Allez, 3. Question orange, sport s'il te plaît.
Sport, ça c'est toujours facile sur
moi j'aime bien le sport.
Sur un Trivial Pursuit Genius de 1980, c'est ouais. Toujours très facile. Alors, qui a triomphé sur la mythique course cycliste Bordeaux-Paris en 1958. Alors vas-y, balance.
Putain, mais déjà la mythique course cycliste Bordeaux-Paris, j'en ai jamais entendu parler. En quelle année tu m'as dit?
58, si ça peut t'aider. Hein.
58. Bah, alors c'est simple, moi pour un vieux trivial, je pense qu'il n'y a que deux cyclistes que je peux connaître.
Ouais.
Ce serait Poulidor.
Ouais.
Mais j'ai peur que ce soit récent, je sais pas. Ou Louison Bobet.
Louison Bobet.
Mais je suis incapable de te situer la période.
Ben, c'est peut-être 58, hein, je peux pas te dire.
Alors, je sais que Poulidor, il a remporté aucun Tour de France, donc il a dû remporter la mythique Paris-Bordeaux.
Peut-être.
Vas-y, je te dis Poulidor.
Poulidor, c'est vrai que t'avais une chance sur deux, mais c'est Louison Bobet.
Ah, putain. Allez, 3. Bim, camembert bleu, mon gars.
Alors, quel nom porte l'événement qui a réglementé la colonisation de l'Afrique en 1884, mon cher Johan, alors
1884, on est sur un événement.
On est sur un événement.
Foire du trône ou...
Non, on est sur un événement de type conférence.
Ah bah, écoute, c'est cool, si tu me donnes une partie de la réponse, je pense que c'est la conférence de Berlin. Mais tant mieux. Enfin, vas-y, dis-moi si c'est ça.
Oui, oui, c'est ça.
Bah, ouais. Nickel. Pour toi, c'est quoi la conférence de Berlin?
C'est marrant, c'est toi qui poses des questions maintenant.
Ouais,
c'est
exactement.
C'est ta question, donc c'est toi qui m'explique.
Non, mais en fait, c'est marrant parce que cette conf, on pense beaucoup que c'est la conf qui définit les grandes frontières de l'Afrique, là, coupées au couteau.
Ouais, les trucs avec voilà. Les droites, là.
Et en fait, c'est plutôt ce qui lance le game de la colonisation. Donc en fait, on est en fin du 19e, à une époque où, dans le contexte, début 19e, on va surtout coloniser les côtes. Tu sais, ouais. C'est des petites expéditions qui arrivent comme ça, au Togo, au Bénin, pour les Français, etc. Enfin, ça s'appelle
parce pas... que c'est trop dur d'aller dans les terres à ce moment-là.
Exactement, puis surtout, ils s'en foutent, en fait. On s'en sert pour le commerce triangulaire. On va pas trop à l'intérieur des terres. Et c'est seulement à partir de la deuxième moitié du 19e qu'on commence à s'intéresser à l'intérieur, évidemment, en bon européen, pour aller pêcher des ressources, notamment autour du fleuve Congo.
Ouais.
En fait, déjà, t'avais un royaume qui était très important, très puissant, le royaume Congo, et en fait, bah, le fleuve, il traverse une grande partie de l'Afrique.
Et dans le fleuve, tu peux remonter justement voilà. Par les
et donc,
terres.
Donc les mecs ont commencé à remonter dans les terres et se sont rendus compte qu'il y avait des ressources naturelles, des diamants, etc. Donc, c'est à ce moment-là, en gros, que t'as la conférence de Berlin. Est-ce que tu sais qui c'est qui l'a organisé?
Non, là,
un mec sympa avec un chapeau pointu.
Je sais pas.
C'est Bismarck. En fait, c'est marrant parce que Bismarck, il est allemand. Et c'est plutôt les Français, les Européens, les Français, les Anglais, voire les Belges qui sont au taquet sur la colonisation. Mais justement, la jeune nation allemande se dit que c'est peut-être un peu le moment d'aller choper un bout de gâteau. Et donc, Bismarck, il réunit les grandes puissances européennes et les USA. Ça, je sais pas bien pourquoi, parce que les USA, ils ont chopé que dalle. En fait, ils définissent surtout dans cette conférence les règles du jeu. C'est-à-dire le libre-échange le long des fleuves, etc. Et de dire, notamment, et c'est ça qui va être vachement important, qu'il faut avoir une présence effective sur les territoires pour ouais. Déclarer que c'est ta colonie. Mmh. Et du coup, ça, c'est le petit truc bien pervers. C'est ce qui fait qu'à partir de la conférence de Berlin, on va passer d'expéditions juste de reconnaissance à des vraies expéditions militaires où on lance à partir, en gros, de la fin du 19e, 1890, jusqu'à la Première Guerre mondiale, un gros partage du gâteau bien intensif, où là, c'est de la colonisation avec l'armée, des installations dans certaines zones, etc.
Ça change du petit port de commerce.
Ouais, voilà, c'était, on change clairement d'échelle, et surtout, tu mets la bonne vieille administration coloniale avec des beaux chapeaux beiges qu'on a tous bien vus. Et voilà, et en gros, c'est cette période-là qui va notamment attiser vachement les rivalités coloniales, et qui va être un des facteurs ensuite de la Première Guerre mondiale. Je t'en bouche un coin, hein.
Boucher un coin.
Allez, après le camembert, je continue.
T'as triché, là !
Ah, ok, vas-y, orange.
Quel était le sport le plus populaire en France au Moyen-Âge ?
Ah oui, on est sur un jeu de type sportif, quoi.
Ouais.
Donc on n'est pas sur la pétanque, par exemple.
Mais je sais pas, peut-être.
Le jeu le plus populaire au Moyen-Âge...
La pétanque, c'est un sport, non ?
Ouais, c'est un sport, mais enfin, ça m'étonnerait que les mecs jouent avec des grosses boules en métal. Déjà, c'est des boules stéphanoises, mon gars.
C'était pas ça la question. C'est peut-être le boule stéphanoise.
Au but, c'est à côté de Saint-Etienne, mais ça n'a aucun rapport. J'ai fait diversion. Franchement, je vais dire un truc, le lancer de javelot, c'est quoi ? Lancer de javelot.
C'est pas le lancer de javelot. Moi, j'ai bien envie de poser cette question à Jean-Baptiste pour savoir si c'est à lui.
Ok, bah peut-être qu'il saura mieux que moi.
Allô ?
Jean-Baptiste ?
Ouais,
salut JB.
C'est Greg et Johan, ça va ?
Ça va et vous ?
Oui, bah ça va. Figure-toi qu'on était en train de faire une petite partie de Trivial Poursuite. Et je viens de poser une question à Johan.
Et comme je suis un peu bête, j'ai pas trouvé la réponse.
Qui était assez compliquée. Est-ce que tu peux répondre à cette question, Jean-Baptiste ?
Jean-Pierre, j'écoute.
Quel était le sport le plus populaire en France au Moyen-Âge ?
En France au Moyen-Âge ?
Voilà. Ah,
c'est pas le frisbee, les gars, je suis désolé.
pourtant, on aime bien.
Oui, je me doute. Mais ceci dit, ça pourrait vous plaire aussi, parce que ça peut se jouer à deux. C'est le jeu de paume, je pense.
Ah, Jean-Baptiste, c'est une bonne réponse.
Il est bon, il est bon.
Combien d'euros on a gagné ?
Bah, pour l'instant, zéro, mais peut-être que si tu réponds encore à 1000 questions, je te donnerai 1 euro. Est-ce que tu as 2-3 mots à nous dire sur le jeu de paume, justement ?
En gros, le jeu de paume, il tient son nom de la paume de la main, puisque le but du jeu, c'est d'envoyer la baballe avec la paume de sa main dans le camp adverse.
Ouais.
Et donc, jusque-là, ça va. On pense que c'est des moines, en fait, qui ont inventé ça dans le cloître. Ils tapaient la balle entre deux offices.
Pour s'occuper les mains, quoi.
Un petit truc que nous apprécions de Jésus, à la base. Et puis, ce qui est intéressant avec le jeu de paume, c'est que c'est l'ancêtre de tous les jeux de raquettes qu'on connaît, puisque à force de se faire mal à la paume, ils se sont dit que ce serait plus cool d'utiliser des gants, des raquettes, même la pelote basque vient du jeu de paume.
La pelote basque, c'est très proche quand même.
Bah, c'est quasiment la même, alors, sauf que la pelote, tu joues face à un mur, alors que dans le jeu de paume, tu es vraiment en face à face.
Ah ouais.
T'as différents types de jeux de paume. Celui des aristos, c'est le jeu en salle plutôt, donc on est en one-to-one. Mais t'as aussi la version plus populo, un peu fête du village, où là, t'as des équipes de 6-7 qui s'affrontent l'une contre l'autre.
On est sur du volleyball, marrant, en fait, quoi.
C'est que, On a vraiment un moment où le jeu de paume, ça devient, mais genre, c'est le foot de la fin du Moyen-Âge, quoi. T'as même François Ier, je crois, qui finit par passer un arrêté pour fixer les règles. Et à partir de là, t'as des joueurs professionnels, on compte environ 7000 joueurs professionnels dans tout le royaume de France, qui vivent de ça, quoi, qui vivent du jeu de paume. Et parmi eux, t'as même quelques femmes qui sont devenues illustres en tant que paumistes ou paumières, on pouvait dire.
Est-ce que Simon Bolivar jouait au jeu de paume ?
Et le petit Bolivar, bah, non, il y a peu de chances qu'il ait joué au jeu de paume. Enfin, c'est possible, ça existait encore, parce que ça existe encore aujourd'hui. Mais au 19e, comment ça a pointé, c'est quasiment les premières formes du tennis. Alors, qui vient d'Angleterre, mais en fait, les Anglais ont tout pompé à qui, à quoi ?
Bah, aux Français, a priori.
Comme toujours, évidemment. Puisqu'en fait, au jeu de paume, quand on sert, on doit dire « tenez », genre « tiens, je t'envoie la balle », quoi. Et donc, les Anglais avaient entendu les Français jouer au jeu de paume, et en répétant le mot « tenez », c'est devenu « tennis, tennis, tennis ». Et donc, du coup, ça a donné le tennis. C'est la classe, non ?
Ils sont forts en français, quand même. Hein. Ben, ça vaut même pas un camembert, JB, mais c'est quand même une très, très belle explication.
Très belle.
Du coup, pendant qu'on t'a sous la main, une petite question bonus, là, comme ça. T'es chaud ?
Ouais, je suis moins chaud, d'un coup. Mais...
question science naturelle, attention. Qu'est-ce que la guigne, JB ?
La guigne ?
C'est bien une question science naturelle, hein, je répète.
La guigne. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai coupé mon téléphone, donc je ne peux pas chercher habilement. Je dirais que la guigne, c'est la malchance, et que du coup, ça doit être peut-être une fiente d'animal. Quand tu marches dedans, bah, tu as un peu la guigne.
Eh bien non, figure-toi, d'après le trivial de 1984, c'est un fruit qui a dû disparaître. Hein,
et qui devait peut-être pas être très bon.
Bon, bah, tant pis, ça nous fait quand même un bon point. Merci, JB.
JB, merci ouais, pour ta réponse.
Je vous en prie. Je vais me faire une petite tarte aux guignes. Ok.
Et voilà, un camembert bien rempli. On peut s'arrêter là pour aujourd'hui. En vrai, on a été plutôt sympa avec vous parce qu'on a bien dû passer 1342 heures de confinement avec Greg à jouer au Trivial édition 1984. Alors pour le gagner, c'est facile, hein, vous avez remarqué deux techniques, être une machine de guerre en culture générale ou alors tricher au dé régulièrement et répondre Louison Bobet ou Poulidor à toutes les questions sport. Je vous laisse deviner évidemment quelle technique on a choisi. Allez, c'était tout pour notre épisode confiné 2000, dans des conditions d'enregistrement un peu spéciales, vous vous en doutez. Alors on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes, enfin du moins on l'espère, et peut-être sur les routes cet été si le dieu des pangolins le veut bien. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. et nous retrouver évidemment sur toutes les applis de podcast. On vous fait des gros bisous les massives et à très bientôt.